I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est arrivé à un modèle simpliste et réducteur de ce qu'est un enfant.
C'est pas parce qu'un enfant va regarder plus les écrans pendant une semaine qu'il va devenir addict aux écrans.
Débile.
Si mon enfant est heureux, s'il s'épanouit, s'il a des émotions positives, ça veut dire que moi, j'ai bien fait mon job.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bienvenue dans mon cabinet. Après de nombreux épisodes à questionner, interroger, donner la parole à nombreux parents et experts autour de la parentalité, cette question chez les parents que j'accompagne revient régulièrement. Existe-t-il une meilleure éducation ? La parentalité est devenue un espace de réussite, de compétition. Les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants afin qu'ils grandissent au mieux. Beaucoup s'interrogent sur l'éducation qu'ils ont reçue, sur les différents modèles, les différents courants éducatifs. Ces dernières années, l'éducation positive, bienveillante, a pris une place prépondérante et parfois érigée comme la bonne méthode, la clé de la réussite d'une bonne éducation. Mais qu'est-ce qu'une éducation parfaite ? Comment l'éducation positive a pris la place qu'elle a aujourd'hui ? Que vient-elle dire de la société et des parents ? Qu'est-ce qui est à prendre et à laisser ? Quels sont les écueils auxquels être attentif ? Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir aujourd'hui avec Béatrice Caméraire et Christelle Goldner. Bonjour Béatrice Caméraire.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes journaliste, spécialisée en éducation et parentalité, diplômée en sciences de l'éducation et autrice de deux livres. Le premier, Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, la parentalité en 9 questions qui divisent, aux éditions Belin. Et le second, L'éducation vraiment positive, ce qu'il faut savoir pour que les enfants soient heureux et les parents aussi, aux éditions Larousse. Bonjour Christelle Goldner.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple, praticienne ICV et formatrice. Vous exercez en libéral à Paris. Tout d'abord, Béatrice, d'où vient cette idée, cette croyance qu'il y aurait une éducation parfaite ? On commence fort.
Alors, c'est pas... Oui, voilà, on commence fort. C'est pas facile hein, de déconstruire d'où viennent nos croyances. Je pense que depuis très longtemps, les parents se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants et c'est quoi être un bon parent. Alors, de là à dire qu'ils cherchaient l'éducation parfaite, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il y a eu des normes depuis très longtemps qu'on retrouve, hein, qui ont été modelées aussi par les autorités du moment. Donc, on a pu avoir des prescriptions de la part de l'Église sur comment être un bon parent, ça veut dire quoi, éduquer un enfant. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a eu l'émergence de la psychologie de l'enfant qui est venue apporter une autre forme d'autorité, d'autres conseils, d'autres idées là-dessus, hein, avec le remplacement progressif de l'autorité de la religion par l'autorité de la science. Et puis, aujourd'hui, on convoque encore de nouveaux champs disciplinaires. Alors, on a vu ces dernières années les sciences cognitives, les neurosciences, neurosciences prendre une ampleur qu'on n'avait pas autrefois et qui viennent à nouveau nourrir cette idée, ces conseils, cette réflexion sur c'est quoi être un beau parent. Donc, je pense que c'est peut-être de là que vient cette certitude, cette idée que peut-être on va finir un peu comme on pourrait découvrir un savoir scientifique. Il existe peut-être quelque part cette formulation de l'éducation parfaite.
Du coup, Béatrice, voilà, je disais dans mon introduction que aujourd'hui, voilà, on parle, les croyances autour de l'éducation sont beaucoup nourries par l'éducation positive, bienveillante. Voilà, il y a différents noms, différentes appellations. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Voilà, comment on pourrait définir l'éducation bienveillante ? Est-ce que c'est différent de l'éducation positive ? Voilà, qu'est-ce qu'il en est réellement ?
Oui, alors effectivement, on a eu toute une galaxie de termes un peu qui se sont popularisés grosso modo aux alentours des années 2000. Hein. Alors, éducation bienveillante, éducation épanouie, parentalité épanouie, bref, autorité positive, enfin voilà, toute une galaxie de termes qui recoupent un petit peu toujours le même type de valeur, c'est-à-dire on retrouve l'idéal d'un fonctionnement un peu démocratique entre l'enfant et ses parents, une remise en question de la toute-puissance finalement des parents au profit de quelque chose de beaucoup plus, une relation beaucoup plus dialoguée, beaucoup plus négociée. On retrouve aussi un ancrage fort dans les théories de l'attachement, donc cette idée que les sollicitations de l'enfant ne sont pas là pour déranger les parents, pour le tyranniser, mais correspondent vraiment à des besoins importants sur le plan relationnel. Donc voilà, on retrouve aussi toute la volonté de lutter contre les violences éducatives, le fait que de dénoncer que les fessées, les claques, les gifles étaient des violences faites à l'enfant insupportables et qui avaient des effets importants sur le long terme. Donc en fait, tous ces courants-là se sont petit à petit rapprocher toutes ces personnes-là avec leur milieu militant, ont vu les liens en fait les uns avec les autres. Et puis il y a eu la recommandation du Conseil de l'Europe, donc au milieu des années 2000, qui en fait essayait de formuler ce que devrait être la parentalité du 21e siècle. Et c'est là, en fait, qu'émerge le terme de parentalité positive. C'est là vraiment qu'il est posé, parce que c'est en ces termes-là que le Conseil de l'Europe formule ses vœux, en quelque sorte, pour la parentalité, ses projets pour la parentalité du futur. Et il décrit cette parentalité comme étant une parentalité fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, non violent, destiné à le soutenir et finalement à lui permettre de développer son potentiel au maximum. Donc ça, c'est le point de départ. À partir de ce moment-là, on commence à parler de parentalité positive et tous ces acteurs, en fait, qui nourrissaient un peu le même type de vision, ont dit, bah oui, bien sûr, nous aussi, on fait de l'éducation positive. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une grande différence entre éducation positive, éducation bienveillante. D'abord, le terme éducation positive, ce n'est pas un concept scientifique, donc il n'y a pas de définition figée. Finalement, l'éducation positive, c'est ce qu'en font les gens qui s'y raccrochent, qui s'y affilient, qui s'en revendiquent. Donc, il y a cette galaxie, il y a cette mosaïque un petit peu d'influence, mais voilà, qui sont structurées autour des grandes valeurs que je viens d'évoquer.
Oui, donc là, vous dites bien que c'est quelque chose qui est encore en construction, qui est mouvant et qui va continuer d'évoluer. Et est-ce que aussi par rapport à cette question de la science, parce que dans beaucoup d'ouvrages d'éducation positive, bienveillante, il y a voilà, ce soutien scientifique, alors que vous discutez d'ailleurs, que vous remettez un petit peu en question dans votre deuxième livre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas cité dans les influences. En revanche, c'est vrai que j'ai peut-être oublié aussi dans les influences de mentionner l'émergence de la psychologie positive, parce que c'est vrai qu'eux aussi revendiquent cette filiation, revendiquent se rejoignent dans ce courant. Donc, juste pour en dire un mot, la psychologie positive, donc c'est ce courant de la psychologie qui est né à la toute fin des années 90 avec le projet de ne plus seulement étudier pourquoi l'humain va mal, mais pourquoi il va bien. Donc, ne plus seulement étudier les pathologies et la manière et la raison pour laquelle elles surviennent, les pathologies mentales, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'un humain est résilient, qu'est-ce qui fait qu'il traverse des épreuves, qu'est-ce qui lui permet d'être heureux finalement. Et donc ça, effectivement, à l'international en particulier, éducation positive, cela renvoie directement à une application au champ de l'éducation des données de la psychologie positive. Donc en fait, comment moi, en tant que parent, moi, en tant qu'enseignant, je vais réutiliser les données de la psychologie positive pour que mon enfant devienne heureux. Donc tout ça, évidemment, ça s'est aussi rassemblé. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas cité directement les neurosciences comme une influence de la psychologie, de l'éducation positive ? C'est parce qu'en fait, ils jouent plus le rôle de caution. C'est-à-dire qu'il y a ces valeurs, il y a ces revendications d'un autre regard sur l'enfant, d'une autre posture éducative, et on va venir piocher dans les derniers développements des sciences cognitives et en particulier des neurosciences, des bonnes raisons finalement, une assise scientifique, une caution scientifique pour dire oui, on a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, qui est lié aussi à l'attrait social très fort pour cette discipline qui n'est pas aussi récente qu'on croit souvent, hein, puisque les sciences cognitives, c'est quand même la moitié milieu du XXe siècle, mais qui a vraiment connu cet essor actuellement.
Oui, comme si finalement les valeurs portées par l'éducation positive n'étaient pas suffisantes, en tout cas que la dimension peut-être de valeurs éthiques n'était pas suffisante pour finalement asseoir les principes, mais la direction en tout cas que donne l'éducation positive, qui a besoin de cet aval scientifique.
Oui, c'est ce que moi j'essaye de pointer aussi, parce que quelque part, il faut se méfier d'une forme de dérive scientiste. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Je ne suis pas en train de dire que les neurosciences perpétuent cette dérive, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, se dire l'éducation d'un enfant, ça ne relève pas uniquement de données scientifiques. On ne peut pas forcément justifier scientifiquement le bien fondé de la démocratie, le bien fondé de l'égalité. Tout ça, ça relève du domaine des valeurs. La science n'a rien à dire, en fait. C'est comme le domaine de ce qui est beau ou pas beau. La science n'a rien à dire là-dessus. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas accorder aux sciences des pouvoirs ou des perspectives plus grandes que ce qu'elles ont. La science, elle est là pour décrire, pour analyser, pour mettre en évidence des rapports, des liens de cause à effet. Ça, c'est tout à fait le cas. Mais pas forcément pour prescrire, c'est-à-dire pour être dans un rapport normatif. Donc voilà, j'avais un peu posé la question dans mon livre dans ces termes ironiques, en disant, mais si jamais un jour il y a une découverte scientifique qui nous apprend que pour bien élever les enfants, il faut les envoyer sur la banquise au milieu des ours blancs, est-ce que vous allez le faire ? Enfin, donc c'est pour ça que même s'il y a de vrais apports et un vrai intérêt à rester attentif à ça, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du prescriptif, ce qui est de l'ordre du scientifique pour pas tout mélanger et réfléchir aux valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants au-delà de ça. Mais par contre, c'est un argument qui convainc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Moi, on m'a souvent dit, notamment quand je critiquais un peu le caractère scientifiquement fondé de la vulgarisation qui était proposée dans les livres de parentalité positive qui faisaient référence aux neurosciences, on m'a dit oui, mais ça convainc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir extrêmement fort de l'argument scientifique et de l'argument neuroscientifique encore plus. Je pense à une étude, par exemple, qui avait montré qu'elles avaient pris le même article scientifique et l'un comportait une photo d'IRM et l'autre pas. Et en fait, on essayait d'évaluer auprès des gens la crédibilité qu'ils accordaient à ce texte, et celui qui était où il y avait une photo d'IRM insérée était gratifié d'une beaucoup plus grande crédibilité. Voilà, ce qui montre que avec un contenu identique, dès qu'on a cet argument-là, on y croit beaucoup plus.
Comme si la science avait une valeur comme ça de vérité.
Bah oui,
irréfutable. Mais
après, c'est le rôle de la science aussi d'essayer de décrire le monde. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment d'essayer de décrire où est la place de chacun. Et oui, bien sûr, les sciences sont là pour essayer d'analyser les phénomènes éducatifs, etc. Mais ils ne peuvent pas, et ça, je pense que c'est important, prescrire aux parents, prescrire aux enseignants ce qu'ils doivent faire dans chaque relation aussi. Parce que y a quelque chose de l'ordre de la description un peu générale. Or, on sait bien qu'une relation parent-enfant, elle dépend de l'histoire du parent, du caractère de l'enfant, de l'histoire de leur relation, de plein de phénomènes particuliers.
Oui, l'éducation, c'est extrêmement complexe et il y a énormément de paramètres, d'où d'ailleurs la difficulté qu'il y ait des études fiables au-delà des études, même voilà, de l'analyse de ce qui peut se passer et de ce qu'un parent devrait faire pour sortir d'une situation difficile. Finalement, voilà, on est beaucoup en attente de recettes magiques, mais chaque situation est très complexe avec un nombre de paramètres très importants dont il est difficile bien souvent de prendre en compte l'ensemble de tous ces paramètres pour analyser une même situation.
Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un peu le risque des recettes. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de parents, et on les comprend, hein, qui sont en attente de solutions miracles qu'on va pouvoir appliquer comme ça, un peu de manière presque mécanique face aux problèmes, aux difficultés qu'on rencontre avec son enfant. Et le problème, c'est que justement, on va au-devant de beaucoup de désillusions. Donc, de parents qui vont essayer d'appliquer ces fameuses recettes, astuces, et puis qui ne vont pas y arriver ou qui ne vont pas en obtenir les résultats attendus. Et qui vont se dire, mais c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis un mauvais parent. Alors qu'en fait, ben non, le problème, c'est cette recette qui n'est pas forcément adaptée. Et puis, qui vont s'interdire de réfléchir à la spécificité des liens, des besoins de leur enfant, au nom peut-être de ce modèle de parentalité qui s'est posé en idéal, mais qui, voilà, dans le jeu du quotidien, ne fonctionne pas à 100%. Et heureusement, j'ai envie de dire.
Comment vous comprenez, Béatrice, que les parents se soient embarqués, en tout cas, et tous montés dans ce chemin de l'éducation positive? En tout cas, dans l'histoire, on voit aussi qu'il y a un tournant où autrefois, l'éducation était un savoir qu'on transmettait de génération en génération. Et puis ensuite, il y a eu le développement des sciences médicales, sociales, de la psychologie, qui sont quand même venus prendre ce savoir pour ensuite le rediffuser parfois de manière d'ailleurs un peu infantilisante aux parents. Comment du coup les choses s'articulent finalement, et comment les parents se sont embarqués dans ce train-là de l'éducation positive?
Il y a deux éléments dans ce que vous dites. La première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça suscite autant d'adhésion? Ça, c'est une vraie question. Et la réponse, elle tient aussi dans l'aspect normatif du terme éducation positive. C'est-à-dire, quelque part, quand on dit que c'est une éducation positive et qu'on en donne la définition, même en se basant sur la définition du Conseil de l'Europe, on nous fait vite comprendre que c'est la meilleure éducation, en fait. C'est posé comme ça à la base. C'est une espèce de présupposé théorique. Quand on dit, l'éducation positive, c'est l'éducation qui va permettre le plein développement de l'enfant et qui va être fondée sur son intérêt supérieur, en fait, c'est postulé que c'est la meilleure. On ne va pas nous dire à quoi elle ressemble, mais on va nous dire, si vous arrivez à faire la meilleure, alors vous ferez de l'éducation positive. Donc, il y a quelque chose de l'ordre… Enfin, c'est très dogmatique de poser ça comme ça. Si on a posé à la base que c'est la meilleure éducation, il n'est pas possible de la contester. Donc, il n'est pas possible de dire, allons-moi, désolé, je préfère faire de l'éducation négative. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, c'est très compliqué de venir… critiquer ces postures-là et éventuellement de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je l'ai vécu à travers mon livre, parce que j'en propose une critique quand même pas très féroce. Je sais plus exactement quel terme avait employé mon éditeur, mais il était un peu déçu. Il m'avait dit c'est quand même une critique un peu molle. Enfin, je suis pas allée de manière très violente. Et pourtant, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de retours. Très tendu de la part des militants de l'éducation positive en disant, mais enfin, comment tu te permets de taper là-dessus? Tu te rends pas compte? Un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les trois jours. Tu ne peux pas formuler cette critique. Donc, il y a un vrai empêchement à formuler des critiques, même des critiques constructives, même des critiques qui nous disent, ok, moi, je suis d'accord avec le projet, mais attendez, il y a quand même des points de vigilance. Améliorons-le pour aller vraiment dans quelque chose d'émancipateur pour tout le monde. Donc, ça, c'est vrai. C'est la description de la situation actuelle. Après, on peut se demander effectivement pourquoi ce type de conseil, ce type de posture, ce type de manière de promouvoir la bonne parentalité aujourd'hui représente est majoritaire parmi les parents. Et là, c'est vrai qu'il faut revenir un peu à l'histoire de la parentalité. Il y a eu un peu un tournant au 19e siècle, en fait, comme vous le mentionniez, jusqu'au 19e siècle, globalement, l'éducation, c'était vraiment une affaire de transmission intrafamiliale, de culture familiale, beaucoup de transmission de femme à femme quand même, puisque les mères étaient en première ligne pour s'occuper des tout-petits-enfants, en tout cas des tout-petits-enfants, même s'il y avait des pères éducateurs, mais souvent, ils intervenaient plutôt un peu plus tard. Et donc, en fait, ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est qu'il y a eu d'abord des évolutions sociales, donc la structuration de l'État en France, en tout cas, puisque avant, l'État ne voulait pas dire la même chose. Et petit à petit, l'État a commencé à se dire qu'il fallait d'abord limiter la toute-puissance paternelle, parce qu'à l'époque, c'était le père qui avait tous les droits, en fait, à peu près sur sa famille, en particulier sur ses enfants. Il avait le droit de les battre, de les vendre à des cirques, de les abandonner. Enfin, c'était quand même assez costaud. Et donc, l'État a dit, on a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Il faut qu'on intervienne pour limiter cette puissance paternelle. Et puis, conjointement à ça, c'est les débuts de la statistique au 19e siècle. Donc, on commence un peu à comptabiliser, et notamment à comptabiliser les décès d'enfants. Et on se rend compte que la mortalité infantile, c'est quelque chose d'absolument dramatique, catastrophique, et qu'il faut absolument l'endiguer, que ça fait, une fois qu'on a compté, on peut plus ne rien faire. Et donc, on essaye de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, et en particulier, on se dit qu'il faut changer les pratiques de puériculture, parce qu'on se dit, c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a des décès d'enfants. Donc, c'est le moment où la science de la puériculture va commencer à émerger, qu'on va commencer à se demander comment il faut nourrir un enfant, à quel âge il faut le sevrer, comment est-ce qu'il va devenir continent, enfin, toutes ces choses après qu'on connaît très bien dans les conseils de puériculture, on germait à ce moment-là et on s'est dit, il faut que ces conseils-là, ils rentrent dans les familles, notamment ils rentrent dans les familles par le biais de l'instruction des filles, ça a été un des arguments forts pour les premières écoles de filles. Et pour remplacer finalement le savoir ancestral transmis de femme à femme par ce savoir scientifique. Donc, il a fallu diaboliser le savoir ancestral pour y mettre ce savoir scientifique qu'on estimait plus à même de limiter cette mortalité infantile. Et en fait, ça, c'est une tradition un petit peu qui n'a fait que se perpétuer. Et aujourd'hui, on la retrouve dans les grands-parents qui disent « Ah là là, mais moi, il fallait coucher l'enfant sur le ventre, vous, il faut le coucher sur le dos. Et puis, nous, on mettait pas de siège auto ou vous mettez des sièges auto. » Cette idée qu'il y a une obsolescence très très grande des savoirs et qu'il ne faut pas se référer aux savoirs ancestraux mais bien aux savoirs produits par les sciences.
Mais alors ça justement, ça pose plein de questions parce que ça laisse aujourd'hui les jeunes parents, les futurs parents, les parents d'aujourd'hui peuvent relire finalement l'éducation qu'ils ont reçue de leurs propres parents avec le regard d'aujourd'hui et finalement comme si leurs propres parents étaient détenteurs d'un savoir qui serait violent en tout cas ou mortifère ou en tout cas là quand vous reprenez cet exemple du couchage des bébés, finalement ça veut dire que les grands-parents auraient fait quelque chose qui aurait mis en danger leur enfant. En tout cas, ça peut amener ce genre de pensée ou en tout cas certains parents à revisiter leur éducation avec un angle qui peut être un peu violent quand même.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Oui, il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui témoignent de ce désarroi parce que eux, ils ont envie de jouer un rôle de soutien, y compris auprès de leurs enfants. Ils ont aussi envie de tisser un lien avec leurs petits-enfants, mais ils ont aussi envie de jouer un rôle de soutien et ils se sentent incapables. Et de fait, ils le sont au regard des normes qui se sont imposées. Après, moi, je distinguerais vraiment deux phénomènes. Celui qui a trait à l'évolution des savoirs scientifiques. Ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, dès lors qu'on essaie de vulgariser des savoirs scientifiques, et qu'on dit aux parents, on veut que finalement vos pratiques parentales soient le reflet de cette actualité des savoirs scientifiques. Ben, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, la science, c'est quelque chose qui se construit par itération. C'est-à-dire, c'est pas ça y est, j'ai posé la vérité, elle est universelle, intemporelle et c'est valable jusqu'à la fin des temps. Non, c'est pas ça. C'est on construit un modèle et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte que parfois il n'est pas bien adapté et qu'il va falloir le revoir. C'est ce qui s'est passé avec la question du couchage. On s'est rendu compte qu'il y avait des morts inexpliquées. On a fait une hypothèse, on s'est dit, c'est parce que les bébés régurgitent et qui s'étouffent avec leur régurgitation. Donc, il faut les mettre sur le ventre. Et puis, quelques années après, on s'est rendu compte que l'épidémiologie n'était pas bonne et que ce n'était pas ce choix-là qu'il fallait faire. Mais voilà, c'est le problème de la science. Ce n'est pas que les conseils sont mauvais, c'est que la science se construit comme ça par essais, erreurs et itérations avec parfois des conséquences importantes effectivement sur les gens. La deuxième chose qui se passe, c'est l'évolution sociale. C'est-à-dire que notre société ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait il y a 50 ou 60 ans, en particulier sur la question des violences éducatives et des châtiments corporel, on a fait des bonds de géant. Alors, on peut toujours se retourner vers l'avenir et dire oui, mais quand même, il y a beaucoup de parents qui continuent à donner des fessées. On peut aussi se retourner vers le passé et dire oui, mais quand même, voilà d'où on vient. Pour vous donner un exemple,
il n'y a plus d'autant de martinets qui sont vendus.
Voilà, c'est ça, il n'y a plus autant de martinets. Moi, j'ai discuté avec Serge Chalandon, l'écrivain qui a beaucoup dénoncé les violences qu'il a subies lui-même étant enfant. Il me disait, mais vous ne vous rendez pas compte, les années 60, c'était une autre époque. On arrivait dans la classe, il y en avait un qui avait un œil au beurre noir, l'autre qui avait du sang séché au coin de la lèvre. Et le maître disait « Ah ben, je vois que les pères se sont bien occupés de vous. Il faut voir d'où on vient. » Voilà, ça, c'est une prise de conscience. Et donc, on éduque forcément pétri de ce contexte social. Donc oui, aujourd'hui, il y a une relecture qui est très douloureuse pour les grands-parents de leur propre décision éducative en disant « Vous avez été violent parce que vous m'avez mis au coin. Vous avez été violent parce que vous m'avez privé de sortie. Vous avez été violent parce que vous m'avez donné des fessées » sans se rendre compte que ces parents-là, eux-mêmes, ne pensaient pas l'être parce qu'ils avaient supprimé les martinets, parce qu'il était hors de question de laisser des traces, de donner des coups qui laissent des traces. Bon, parce qu'il était hors de question d'infliger à leurs enfants ce qu'eux-mêmes avaient connu.
Mais c'est une remise en question de leur position en tant que parents, mais aussi des enfants qu'ils ont été avec leurs propres parents. Et ça, c'est une relecture de leur histoire. Enfin, moi, je le vois quand je travaille en thérapie familiale. C'est une relecture qui peut être très douloureuse, en fait. Et ce qui, parfois, amène comme ça une grande rigidité, parce que ça vient toucher des choses très archaïques, très anciennes, de leur enfant intérieur, quoi.
Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Mais ouais, enfin bon, j'ai pas du tout ce rôle de thérapeute, donc voilà. Mon travail n'est pas de donner des conseils aux parents. Mais c'est vrai que parfois je les invite, parce que j'ai souvent aussi des réflexions de ce type-là, à dire mais peut-être que en fait vos parents ont posé la brique qui vous a permis de poser la vôtre, et qu'il s'agit pas simplement d'opposer les modèles, mais de se dire bah voilà, en fait on avance, et ce que vous avez déconstruit, bah c'était nécessaire pour pouvoir encore plus déconstruire, encore plus remettre en question, et finalement encore plus construire l'éducation qu'on a envie pour nos enfants, sachant que sans doute eux-mêmes viendront nous dire « mais enfin, tu as fait n'importe quoi
». Là, Christelle, vous nous dites du coup ce que ça vient rejouer chez les grands-parents, mais du coup dans la confrontation générationnelle entre les grands-parents et les parents d'aujourd'hui, voilà, comment les choses s'organisent, s'articulent ?
Par rapport à ces nouveaux modèles éducatifs, hein, mais comme en même temps l'a expliqué Béatrice, il y a des modèles éducatifs nouveaux, j'ai envie de dire, à chaque génération. Ça évolue, c'est un processus, hein. C'est pas nouveau. Mais c'est certain que ça nourrit à la fois la réflexion. C'est vrai que là, ça, c'est explosif, hein, tout ce qui émerge en termes de modèles éducatifs. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de parents qui se sentent, alors pour le coup, complètement perdus avec tous ces modèles. À quoi je peux me référer? Sur qui je m'appuie? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec mes propres parents? Enfin, comme vous le disiez à l'instant, Béatrice. Et dans cette confrontation, ça amène quand même beaucoup de conflits intergénérationnels, avec une remise en cause en fait de la position grand-parentale et parentale à l'époque. Et vous parliez du soutien. Et c'est vrai que ça vient aussi limiter, en fait. Et il y a beaucoup de parents qui disent « mais moi, je suis pas soutenue, je sais pas avec qui je peux avoir un relais, parce que j'ai pas suffisamment confiance, quand je vois ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'enfant, comment je peux confier mes propres enfants, etc. » Et puis, au regard de ce que j'entends aujourd'hui dans les dogmes qui sont transmis, c'est pas possible, je ne peux pas confier mes enfants à mes propres parents. Ils seront en danger. Hein, et je crois qu'il y a un peu ce mot est, à mon avis... utilisé à mauvais escient. Bon, on y viendra après, hein, mais c'est quoi être en danger? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. De la même manière que le mot trauma aussi, hein, c'est traumatique.
Oui, bon. Ce sont des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, un peu pour désigner voilà, toutes sortes de choses.
Et qui se retrouvent galvaudées, en fait. Mmh. Et quand on est dans des situations réelles de trauma, ce mot-là qui est utilisé à mauvais escient, il fait plus sens quand il devrait faire sens. Et ça, je pense que c'est quand même un problème d'utiliser des mots qui ne conviennent pas, et des mots graves, en fait.
Oui, de confondre peut-être ce qui relève du mauvais souvenir de ce qui relève du trauma. Enfin,
exactement. Je me demande si... Exactement.
Dans ces différences que vous évoquez là, Christelle, alors justement sur la question de comment faire confiance à ses propres parents, donc aux grands-parents, comment confier ses enfants, voilà, pour pouvoir justement bénéficier de ce relais. Vous parliez, les parents d'aujourd'hui pourraient se dire « mon enfant va être en danger ». Comment le parent peut évaluer s'il peut confier ses enfants à ses propres parents, justement?
Alors... ça, c'est une question qui est difficile. Sur quel repère s'appuyer ? Ce que je vais proposer n'est pas une vérité, c'est une proposition. La première chose, je pense qu'il y a le cadre légal, justement. Donc là, je vais faire référence à l'article 375 du Code civil, qui est en vigueur, c'est une version qui est en vigueur depuis le 9 février 2022, et qui parle de ce qui relève de la maltraitance, et donc de la nécessité de protéger. Donc je cite juste un morceau de cet article. « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. » Donc, ça nous donne une idée de ce que c'est qu'un enfant en danger. Et un enfant en danger, c'est pas un enfant qui va regarder plus la télé chez ses grands-parents que chez ses propres parents, ou qui va manger un bonbon ou que des frites pendant une semaine. Non, ça n'est pas une situation de danger ni de maltraitance. ou un enfant avec qui les grands-parents n'aura pas reformulé ses émotions quand il aura pleuré, hein, ce qu'on apprend beaucoup dans l'éducation bienveillante et positive, ça n'est pas une situation de danger pour l'enfant. Donc, il y a ce premier point, le cadre légal par rapport à ce repère de comment je peux confier mes enfants. Sur quoi je m'appuie pour savoir si je peux confier aux grands-parents ou à d'autres figures? Parce que là, on parle des grands-parents, mais on peut aussi avoir d'autres relais que les grands-parents, d'autres figures, d'autres adultes alternatifs à qui l'enfant peut être confié. L'autre chose, c'est la qualité relationnelle avec la personne à qui l'on confie l'enfant. C'est-à-dire que donc une fois qu'on a exclu évidemment les questions de danger, hein, voilà, donc la question du danger est exclue, donc maintenant on peut se poser la question de la relation, c'est-à-dire est-ce que le parent est soutenu par les grands-parents? Si les parents sont disqualifiés par les grands-parents dans leur éducation, l'enfant va se retrouver alors, enfin peut se retrouver en tout cas pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et ses grands-parents. Donc là, ça doit quand même nous interroger. Est-ce que les enfants et les grands-parents sont en situation de concurrence, de compétition, hein, dans ce qu'il serait le mieux à donner à l'enfant, auquel cas il n'y aurait pas effectivement de soutien des grands-parents envers les enfants? Ça interroge. Mais c'est un peu comme dans le couple. Hein. Soutenir la position de l'autre adulte, c'est aussi soutenir la position de son partenaire. Et ça, en tout cas, dans une éducation... Alors, je ne vais pas parler de parfait, parce qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, en tout cas, pas à mon sens. Mais pour les enfants, qu'ils puissent faire l'expérience d'adultes qui se font confiance, c'est vraiment important, c'est très sécurisant, et ça leur donne des repères qui les laissent aussi à leur place d'enfant, en fait. Ils ne se retrouvent pas coincés au milieu des conflits des adultes. Et puis, peut-être le troisième repère, ce serait les signes cliniques chez l'enfant. Est-ce que l'enfant va manifester des signes avant d'aller chez les grands-parents ou à nouveau hein, d'autres figures? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations après? Donc des manifestations type des troubles du sommeil, de l'appétit, un repli, un mutisme, etc. Parce que face à des grands-parents qui vont exposer par exemple au journal télé. Alors oui, il est préférable d'éviter qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans se retrouve devant le journal télé. On est d'accord. Mais chaque enfant ne va pas réagir de la même manière. Chez un enfant, ça va passer, j'ai envie de dire, un peu inaperçu et ça ne va pas provoquer chez lui des difficultés a posteriori. Quand chez un autre, ça va provoquer, par exemple, des cauchemars parce qu'il va revoir ces images-là, ça va l'inquiéter. Donc, c'est un peu propre à chaque enfant. C'est pour ça que c'est important de s'appuyer aussi sur sa singularité et sur comment il va réagir. On parlait des écrans tout à l'heure, ou des frites. Hein. C'est pas parce qu'un enfant va regarder plus les écrans pendant une semaine qu'il va devenir addict aux écrans.
Débile.
Voilà, hein. Il va pas baisser son QI. Hein. La notion de QI aujourd'hui est quelque chose d'important, mais son QI ne va pas baisser parce qu'il a regardé la télé un peu plus. Et puis, il y a un gain qui est important aussi pour les enfants. Donc, c'est important dans la balance de voir les deux. Hein. À la fois, cette différence de modèle éducatif et en même temps, les bénéfices qu'il va avoir parce que l'enfant s'inscrit aussi dans une filiation hein, quand il passe du temps chez ses grands-parents. C'est aussi un moment propice pour connaître ses origines, connaître l'histoire familiale sous un autre angle. Les enfants, d'ailleurs, adorent entendre les grands-parents raconter des anecdotes de l'enfance de leurs propres parents. C'est se connecter à l'idée donc, que leurs parents ont été des enfants. Et cela va les aider en fait, à se repérer dans le temps. Ça les aide aussi à intérioriser, à intégrer la succession des générations et à se situer en fait, hein, dans le monde. Et puis, il y a aussi le plaisir que les enfants peuvent avoir quand... tout simplement le plaisir qu'ils peuvent avoir quand ils partent chez d'autres, chez les grands-parents ou à nouveau d'autres adultes alternatifs. Et cette notion de plaisir, c'est aussi un signe. Hein, c'est-à-dire que l'enfant qui, effectivement, va se mettre à hurler, à ne pas dormir les 3 jours avant d'aller chez les grands-parents, on doit se poser des questions. Et puis l'enfant qui est hyper content et qui saute dans les bras de ses grands-parents, bon, c'est un signe, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme critère, mais c'est un signe qui doit nous aider à peut-être à aussi avoir confiance.
En tout cas, quand vous dites tout ça, Christelle, moi j'entends tous les parents que j'accompagne et qui me disent « Non mais s'ils vont une semaine chez les grands-parents, tout ce que je... toute l'énergie que je mets à mettre en place l'éducation positive, à reformuler les émotions de mes enfants, à bien gérer le temps d'écran, à leur donner bien ce qu'il faut dans leur assiette, tout ça va voler en éclats. Et puis après, je vais devoir tout recommencer à zéro. »
Ça, c'est un mythe. Parce que, alors oui, on va peut-être mettre quelques jours, en effet, à récupérer et à reprendre sa place. Mais la figure d'attachement, les figures d'attachement principales, ce sont les parents et ce n'est pas les grands-parents. Et donc ça, c'est important de le remettre à sa place. Heureusement que l'enfant, il peut différencier qui sont ses parents, qui sont ses grands-parents, qui est sa maîtresse, qui est la nounou. Et tout le monde n'est pas à la même place. Donc la transmission n'est pas la même et l'intériorisation n'est pas la même. Hein, mais avoir un espace où il y a plus de souplesse pendant une semaine, je pense que c'est aussi quelque chose qui aide l'enfant à bien grandir, de faire des expériences nouvelles, différentes, apprendre qu'il y a, qu'il y a de la différence, qu'on n'est pas dans une vision unique. C'est aussi la notion de l'altérité. Et je pense que ça, pour bien grandir, c'est fondamental comme apprentissage. Donc l'enfant a beaucoup à gagner, en fait, de faire ces différentes expériences. Et en plus, dans sa vie d'adulte, il sera confronté à des expériences relationnelles très différentes, à des positionnements différents, à des manières de faire différentes. S'il n'a pas fait du tout cet apprentissage en étant enfant, il risque aussi de se retrouver en grande difficulté à l'âge adulte.
Vous vouliez réagir, Béatrice?
Oui, effectivement. Moi, je faisais le lien un peu avec l'évolution de ces théories éducatives, hein, parce que c'est vrai qu'une des grandes nouveautés, en quelque sorte, du 19e, 20e siècle, c'est de reconnaître la vulnérabilité de l'enfant et la spécificité de l'enfant, le fait qu'il a besoin de soins, qu'il n'est pas juste une espèce d'adulte miniature, qu'il a sa spécificité à lui. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé aujourd'hui, notamment par le biais d'éducation positive, mais d'autres influences un peu du même type, à une sorte de paroxysme de cette représentation-là. On le retrouve beaucoup avec les discours autour de l'immaturité cérébrale de l'enfant, où on a le sentiment qu'à la moindre adversité, au moindre grain de sable, à la moindre difficulté, tout va s'effondrer. Et ça, c'est absolument pas scientifique, parce que ce que nous montre quand même l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que ça, c'est que les enfants sont plutôt assez résistants. Alors, c'est pas toujours pour le meilleur, mais il n'y a pas cet effondrement à la moindre parole qui ne correspondrait pas à l'optimal, etc. Et puis, j'ai l'impression aussi que cette vision-là, elle est encore très pétrie, même si je pense que les gens s'en défendent, de quelque chose de l'ordre du dressage, finalement, où on doit donner toujours le même type de stimulus à l'enfant pour qu'il apprenne la même chose, pour qu'il soit finalement conditionné à quelque chose, à un modèle qui serait extrêmement, enfin qui serait stable à l'extrême en fait, qui ne souffrirait d'aucune forme de variabilité. Alors je ne pense pas que les parents le pensent comme ça, mais il n'empêche que je trouve que ça s'inclut bien dans cette histoire-là de la pensée et de l'histoire de la psychologie de l'enfant. Alors que non, en fait, un enfant, de la même manière qu'il va être capable d'apprendre à parler avec en espagnol avec sa mère si sa mère est de langue espagnole, et puis en anglais avec son père si son père est de langue anglaise, il va être aussi capable de jongler avec les registres éducatifs, avec les manières d'être, avec les valeurs des uns et des autres. Et ça fait même partie de la richesse dont vous parliez aussi, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à un modèle simpliste et réducteur de ce qu'est un enfant, au nom de son plus grand bien, mais quand même simpliste et réducteur, où tout risque devient un danger catastrophique. Tout à l'heure, vous citiez l'exemple du journal télévisé. Être confronté à des images qui marquent l'enfant, ça peut arriver aux grands-parents, mais ça peut aussi arriver aux parents. Hein. Parfois, on met un dessin animé, on pense qu'il est anodin. Et puis, pour l'enfant, ça fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et en fait, il faut le retravailler derrière. Mais ce n'est pas un danger. C'est un petit grain de sable sur la route de la parentalité qui va être l'occasion pour tout le monde d'avancer et de grandir. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un regard extrêmement négatif sur tout ce qui pourrait arriver de pas parfaitement positif à l'enfant, au lieu de considérer que ça fait aussi partie de sa construction.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est sortir de sa zone de confort un petit peu, c'est aussi ce qui lui permet de grandir et de développer ses capacités psychosociales, relationnelles, de réaction face à ce qui lui arrive. Et c'est vrai qu'il y a cette idée comme ça où on voudrait complètement limiter cette sortie de zone de confort. Hein, quand vous dites, voilà, il ne faut pas changer de modèle, il faudrait que ce soit partout pareil, qu'il puisse prévoir absolument tout ce qui va se passer dans tel contexte, à l'école, à la maison, chez les grands-parents, chez les parrains-marraines, chez les amis, et qu'il n'y ait pas comme ça ces variabilités qui, au contraire, en fait, l'aident justement à grandir et à ouvrir sa fenêtre de tolérance.
C'est une sorte de parentalité de l'hyper-contrôle. Quoi,
c'est ça. Et puis l'autre chose aussi, ce que vous disiez, quand vous parlez de cette vulnérabilité, comme si il y avait un manque de reconnaissance des ressources de l'enfant. Vous parlez de résistance, et voilà, moi j'avais ce mot ressources qui venait, et l'enfant a beaucoup de ressources, et d'ailleurs je trouve très souvent quand, moi je vois avec mes patients, quand ils anticipent des situations nouvelles pour leur enfant, les parents sont absolument terrifiés, donc anticipent des semaines à l'avance, et en fait, bien souvent, l'enfant est très surprenant, et dans le bon sens, et s'adapte beaucoup plus vite que le parent.
Oui, tout à fait.
En préparant l'épisode, Béatrice, vous me disiez dans les écueils justement de la parentalité positive, il y a vraiment, pour certains parents, en tout cas l'écueil qu'il peut y avoir, c'est d'aller vers l'évitement. Alors là, on parlait de la différence, de situations difficiles, mais aussi par rapport aux émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont axées sur comment apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Et donc, finalement, peut-être parfois à l'extrême, cette idée qu'il faudrait annuler toutes les émotions. Alors, négative ou désagréable que vit l'enfant, alors que ses émotions font partie de la vie et que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il y sera confronté.
Oui, tout à fait. Après, alors bon, moi, j'ai toujours un regard compréhensif parce que je sais, enfin, en tout cas, c'est une croyance, mais ce n'est pas qu'une croyance, la majorité des parents essayent de faire au mieux pour leur enfant. Et ça, j'en suis absolument convaincue, ça se vérifie tout le temps. Ce qui se passe dans l'éducation positive, c'est qu'on leur propose de chausser des nouvelles lunettes sur leur enfant. On leur propose de dire, bah, regardez, là, votre enfant, il se roule par terre, mais en fait, ce n'est pas parce qu'il essaye de vous mettre la honte devant tout le monde, bien sûr que non, c'est parce qu'en fait, il est en train de vivre une tempête émotionnelle. Il est en train de vivre quelque chose d'horrible qui est en train de le dévaster l'intérieur. Alors, on pourra rediscuter de cette description-là, mais c'est ça, en tout cas, les lunettes que les parents, que l'éducation positive propose de chausser aux parents. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion, une manifestation, on dit aux parents, en fait, là, ce que vit votre enfant, il est ravagé de l'intérieur. C'est quelque chose de terrible. Il souffre. Donc, forcément, on est un parent, on aime son enfant, on va développer une empathie extrême. On va avoir envie de ne pas lui faire vivre ça, de lui éviter ce genre de choses. Et donc, effectivement, on voit chez les parents un développement d'une sensibilité qui est à la fois tout à fait bonne, mais en même temps extrêmement poussée dans l'idée où ils font presque corps avec l'enfant, avec ce que vit l'enfant, mais en se nourrissant de ces représentations extrêmement alarmistes aussi de ce que l'enfant est en train de traverser. Moi, j'ai quelques extraits en tête de livres d'éducation positive où il est question de refuser une glace à un enfant ou d'éteindre la télévision. On a l'impression qu'on est en train de les torturer au sens propre. Hein. Bon, je dis pas que c'est pas un moment désagréable, mais c'est pas une torture non plus. Donc voilà, il y a une forme d'exagération aussi des sentiments désagréables, des émotions désagréables, qui vont encourager les parents, encore une fois, à essayer d'éviter. C'est un peu le règne de l'apicratie, hein, en quelque sorte, qu'ont dénoncé certains sociologues, où finalement, être heureux, ça devient une sorte d'injonction aussi. C'est la preuve pour ces parents que leur éducation est réussie. Si mon enfant est heureux, s'il s'épanouit, s'il a des émotions positives, ça veut dire que moi, j'ai bien fait mon job. Donc voilà, donc il y a plein de raisons qui font que ses parents vont essayer d'épargner, et encore une fois, hein, l'intention est bonne, toute forme d'émotion désagréable à l'enfant, mais en se faisant finalement, ils ont des difficultés à l'encourager, par exemple, à s'engager dans des efforts, à faire preuve de persévérance, à prendre des petits risques, des risques qui ne vont pas le mettre en danger, encore une fois, mais qui font partie des expériences de la vie. Voilà, quand on apprend à marcher, on tombe, quand on monte en l'arbre, parfois on peut tomber aussi, si on utilise un couteau pour la première fois, on peut se couper. Tout ça, ce n'est pas des choses graves, mais par contre, ça va être des choses désagréables et pénibles, mais dont il ne faut pas forcément à tout prix protéger l'enfant, à tout prix empêcher l'enfant de faire ces expériences-là.
Moi, j'aime bien souvent rappeler que ce sont des étapes et des moments qui font partie du développement de l'enfant. Il est en apprentissage et donc la crise et la colère et la frustration au moment du refus de la glace, c'est normal en fait. C'est pas une réaction inappropriée, grave, inquiétante. C'est pas que le parent a mal fait son travail. Parce qu'il y a parfois, je trouve, une confusion entre la détresse de l'enfant et l'expression d'une émotion désagréable. Et c'est cette peur que l'enfant soit en détresse qui actionne comme ça la culpabilité. Et alors le « j'ai pas bien fait, comment il faut que je fasse ?» Ça va lui détruire son cerveau. Ça va parfois jusque-là. Hein.
Les termes utilisés peuvent être vraiment aussi très, très forts et faire peur aux parents.
Les extraits auxquels je pensais typiquement convoquent tout un vocabulaire neuroscientifique qui suggère finalement que contrarier l'enfant ou amorcer ce type de crise revient à déclencher dans son cerveau la sécrétion d'hormones qui sont de l'ordre du poison finalement. C'est ça le message qui est véhiculé et qui n'est absolument pas conforme au savoir scientifique qu'on a à disposition d'ailleurs. Mais c'est ça le message qui est envoyé aux parents.
Donc là, on évoquait les premiers, en tout cas déjà quelques écueils par rapport à l'éducation positive dans ce que vous disiez l'une et l'autre. Ça m'a fait penser à un autre écueil, la question de la course au mieux. Vous disiez, voilà, Béatrice, les parents font toujours la volonté de faire au mieux pour leurs enfants. Et voilà, il y a quelque chose, peut-être d'une course infernale qui se met en place.
Oui, la course à la mère parfaite, parce qu'il y a beaucoup de mères d'abord qui ont été touchées par ça, peut-être aujourd'hui plus du parent parfait, parce que voilà, on est content d'aller vers l'égalité, même si ça a aussi ce travers un peu négatif. C'est quelque chose qui est très présent, mais je ne suis pas sûre que ce soit tant dans une forme de concurrence, même si parfois ça peut prendre cette forme-là, que dans l'idée d'être en paix avec sa conscience, d'avoir fait au mieux. C'est vraiment ça qui est. Les parents ont très peur de regretter, ont très peur d'avoir des remords, ont très peur de se rendre compte trop tard qu'ils ont mal fait, qu'ils n'ont pas bien fait. Et ça, c'est vraiment très paralysant, surtout avec cette idée que en permanence est en jeu le bon développement du cerveau de l'enfant. On vit quand même dans une société, tout à l'heure vous faisiez référence au QI, on vit dans une société où l'intelligence est reine, où le cerveau est roi quelque part. On a parfois l'impression qu'on a un cerveau sur pattes plutôt qu'un enfant. Alors bon, pas tout le monde, mais c'est vrai que des fois ça évoque un peu ce genre d'idées et que c'est vraiment ça qu'il faut absolument optimiser. Il faut quand même se rendre compte aussi qu'on est dans une période qui commence à durer depuis une quarantaine d'années qui est très soumise aux crises économiques, aux crises de manière plus générale. Et il y a des sociologues qui décrivent dans le début des années 80 la montée de la peur du déclassement social chez les parents, donc la peur qu'on n'ait pas de travail, qu'on ne réussisse pas professionnellement, qu'on ne fasse pas suffisamment d'études et ce genre de choses, qui explique aussi pourquoi petit à petit cet intérêt éducatif pour le cerveau, l'intelligence s'est renforcée et qui a donné lieu à des choses aussi tout à fait regrettables sur le plan éducatif. Par exemple, c'est à ce type d'évolution qu'on peut attribuer la diminution des temps de jeu libre en maternelle, parce qu'il faut être plus rentable. On ne peut pas se permettre, le rôle de l'enseignant n'est pas de laisser les enfants libres de jouer. Le jeu doit être éducatif, le jeu doit être rentable sur le plan scolaire. Et toute cette idée de rentabilité dans les jouets qu'on va proposer, dans les loisirs qu'on va proposer, dans les lectures, dans les attitudes parentales, ça vient se compléter avec la course aux parents parfaits aujourd'hui et ça la reconfigure aussi dans une dimension sociale. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de le pointer pour le déconstruire, pour aussi que les parents puissent prendre du recul par rapport à ça. Parce que moi, j'ai vu des parents qui se revendiquent complètement de l'éducation positive, qui en fait sont complètement stressés, en particulier à l'idée que leur enfant ne réussisse pas socialement sa vie, ce qui peut être paradoxal avec l'ambition d'avoir un enfant tout à fait épanoui.
Christelle, quel peut être l'impact pour l'enfant, pour le parent, peut-être pour le couple aussi, de cette course au mieux, au plus, à l'éveil, à la multiplication des activités pour développer toutes les compétences, rendre l'enfant le plus performant possible?
Alors, il y a plusieurs choses, mais je voulais rebondir sur cette question du parent parfait, en fait. Je vais faire référence à Winnicott, qui était un pédiatre psychanalyste du XXe siècle, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un « La mère suffisamment bonne », et où il nous rappelle l'importance de la constance parentale. Et alors j'ai une de mes collègues qui me disait tout le temps en blaguant « Moi, j'ai choisi d'être une mère médiocre, constante, plutôt qu'une mère parfaite à temps partiel. » Alors ça m'a beaucoup marquée parce que j'aimais vraiment bien cette idée de dire « Moi, j'ai choisi d'être une mère médiocre. » Et parce que je vois de plus en plus de parents qui, avec cette injonction d'être un parent parfait, qui va réagir à tout moment extrêmement bien, dans l'amour, la bienveillance, la compréhension, avec un énorme besoin de patience. Donc, qui tiennent, jusqu'au moment où ça explose, en fait, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et l'enfant va se retrouver confronté, en fait, à une imprévisibilité, justement, du comportement de ses parents, et ce qui, pour le coup, provoque plutôt de l'anxiété et de l'inquiétude. Et donc, cette constance, être parent parfait en permanence, il me semble que c'est une injonction que personne ne peut tenir.
Et, oui, on n'est pas des robots.
On n'est pas des robots. Et donc, je ne sais pas pour vous, Mathilde, dans votre cabinet, mais moi, je vois beaucoup de parents qui disent ça, puis qui s'en veulent ensuite énormément, en disant « mais j'ai pété les plombs, c'est terrible, qu'est-ce que ça a provoqué chez lui ?» Et donc, être cette mère qui est ni trop bonne, ni trop mauvaise, parce que c'est ça, la mère suffisamment bonne de Winnicott, peut-être que c'est une position qui est plus tenable que la mère parfaite. Donc, j'ai envie de redire ça par rapport à votre question.
Alors, ça évoque un autre écueil de l'éducation positive, c'est la place du parent et comment le parent peut s'oublier, justement, parfois, dans cette éducation. Mais avant de revenir sur ce point, Christelle, par rapport à cette course à la réussite, quel est le coût dans la relation avec l'enfant, pour le parent, pour le couple, peut-être ?
Dans cette course, de plus en plus de parents vont mettre de côté aussi leurs besoins. Et finalement, la famille, elle... Alors, c'est pareil, définir la famille fonctionnelle, c'est compliqué, hein. Ce serait un truc très normatif. Mais en tout cas, celle qui trouverait un équilibre dans le déséquilibre, y a cette idée que les besoins de chacun doivent trouver leur place. Alors, ce ne sont pas les mêmes besoins pour les parents ni pour les enfants, mais les besoins aussi des adultes doivent pouvoir exister. Et quand les besoins des enfants deviennent omnipotents, prennent toute la place, les parents n'ont plus du tout d'espace pour eux, culpabilisent à l'idée de faire une activité qui leur fait plaisir en disant « mais j'ai pas assez vu mon enfant cette semaine, j'ai trop travaillé, mais alors donc si en plus je fais quelque chose pour moi, au détriment de mon enfant, quel effet ça va avoir sur lui ?» Donc, il y a de plus en plus quand même de parents qui sont, alors je vais prendre un terme un peu qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais de burn-out parental. Et en même temps, c'est assez... on le retrouve quand même, hein, aussi dans le quotidien et dans la clinique. Donc, des parents qui sont complètement surmenés,
épuisé.
Ça a des impacts évidemment sur le couple parental, parce que si l'enfant peut pas être à sa place, avoir des moments aussi où il peut trouver ses propres ressources, justement, sans avoir constamment besoin de l'adulte qui est là pour reformuler, pour accompagner tous ses mouvements émotionnels, etc. Le couple ne peut plus avoir ces moments-là, en fait, de partage, d'échange. Beaucoup de parents disent, de toute façon, c'est simple, on peut pas se parler. Quand il ou elle est là, on peut pas se parler. En même temps, ça interroge. Alors évidemment, on ne se parle pas pareil, on n'a pas la même disponibilité, mais il me semble que c'est important que l'enfant puisse faire l'expérience que oui, ses parents peuvent se parler, ses parents, ce sont aussi un homme et une femme qui s'aiment, qui ont des choses à se raconter, des choses à se dire, et qui fassent l'expérience de la différence générationnelle. Tout le monde n'est pas à la même place. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des gros écueils, en fait. C'est le gommage de la différence générationnelle. Avec des enfants comme ça, où on leur demande... j'ai déjà lu ça quelque part, où ils vont choisir leur punition. Hein, où ils ont leur mot à dire sur comment les parents se positionnent. Voilà, moi je trouve que c'est interrogeant quand même. À nouveau, c'est extrêmement structurant de savoir où je me situe. On voit bien d'ailleurs que dans les familles où il y a une énorme confusion générationnelle, c'est un énorme terreau pour l'inceste. Donc la différence intergénérationnelle, elle est absolument structurante et fondamentale pour se construire.
C'est tout l'enjeu de l'émergence de la famille démocratique. Hein. Je pense que c'est un modèle qui, à la fois, est tout à fait... enfin, donc on peut saluer cette idée qu'on voudrait des rapports plus horizontaux dans la famille. On ne voudrait pas une autorité toute puissante des parents et des enfants qui n'auraient rien à dire. Je pense que personne n'a envie de revenir au temps où les enfants ne pouvaient pas s'exprimer à table et on leur demandait juste d'obéir. Je pense que plus personne n'a envie de ça, ni pour l'enfant, ni pour la société, d'ailleurs, puisque c'est quand même la société future qu'on construit. Et pour autant, cette famille démocratique n'est pas facile à construire parce qu'elle est pleine de paradoxes. C'est un peu ce que vous voulez dire. C'est que, comme dit, je pense au sociologue François de Saint-Gly qui a très bien décrit ça, il dit l'enfant est à la fois petit et grand. Il est petit parce qu'effectivement, voilà, il doit être protégé, il est l'objet de soins. Il y a une forme d'asymétrie qu'il ne faut absolument pas, parent-enfant, qu'il ne faut pas du tout réduire. Et en même temps, il est grand parce qu'on le considère comme un sujet de droit et droit de l'enfant. Et on reconnaît ses droits et son droit, y compris à participer aux fameuses décisions qui le concernent, hein, si je fais référence au Code civil depuis 2002, ça fait partie de nos standards éducatifs aussi. Donc, je pense qu'en fait, on est parti du principe que la famille démocratique, c'était quelque chose qui allait de soi à faire vivre. Et en vérité, ça questionne réellement la place du parent, parce que ça veut dire quoi être parent dans ce cadre-là, ça veut dire quoi être enfant, et jusqu'où il est légitime de questionner le pouvoir du parent. Hein. Il y a certains qui vont très loin en dénonçant la domination adulte. Je pense qu'il y a des fois, c'est tout à fait justifié, effectivement. Peut-être que les adultes, des fois, s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas. Et d'autres fois, eh ben, si, ça correspond quand même à un respect des besoins de l'adulte et aussi à une autre forme de bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Parce que je ne suis pas sûre qu'on soit toujours bienveillant. Je pense que vous l'avez bien montré lorsqu'on se départit de ce rôle.
Mais c'est certain qu'il y a une évolution qui est extrêmement favorable. C'est-à-dire que le fait que l'enfant soit passé de « c'est un petit tube digestif » pour reprendre les termes de Françoise Dolto à « le bébé est une personne », évidemment, il n'y a aucune critique pour ma part à émettre sur ça. En revanche, je crois qu'il y a eu aussi vraiment une grande confusion, enfin, il y a une grande confusion entre autorité et autoritarisme. Beaucoup de parents disent « oui, mais moi, voilà ce que j'ai vécu, c'était insupportable, du coup, je n'ai pas confiance en moi, je me sens nulle, etc., etc. Je voudrais que ce soit différent pour mon enfant. » Et donc, avec cette peur de l'autoritarisme, il y a un espèce de laisser-faire et où l'enfant est laissé dans une place de toute puissance qui est quand même très délétère pour lui, qui l'emprisonne et qui l'empêche en fait de pouvoir aussi dépasser ses pulsions. Et donc je pense que c'est important de resituer c'est quoi l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, il va exercer un pouvoir sur l'autre et mettre l'autre en position de faiblesse et en usant notamment de la peur. Alors que l'autorité va libérer et renvoie à la notion beaucoup plus de responsabilité. Et ça implique aussi de se priver du bonheur immédiat. Parce que quand j'ai une position d'autorité avec mon enfant, bah oui, c'est un moment qui est, c'est pas un moment qui est léger, c'est pas un moment qui est agréable, c'est pas un moment où on rigole. Bon, mais en même temps, éduquer, c'est justement, il ne me semble pas être dans le plaisir permanent, en fait. Ça n'est pas que ça. Éduquer, c'est renoncer au bonheur constant, en fait. Mais avoir de l'autorité n'est pas être autoritaire et c'est apprendre à devenir grand. Alors, il y a une Caroline Goneman, une psychologue que je citerai à la fin dans les recommandations. Elle dit quelque chose comme être parent, c'est vivre au paradis avec ses enfants, s'amuser, rigoler, prendre du plaisir, etc. Mais avoir toujours un extincteur sur soi, prêt à dégainer. Et je trouve son image assez, assez intéressante pour dire que, bah oui, constamment, on a aussi cette vigilance et on est prêt à sortir du paradis et renoncer au paradis perdu. Je pense que c'est aussi important qu'en tant que parent, on puisse l'assumer, en fait. C'est aussi aider l'enfant à sortir du paradis perdu, à quitter le paradis perdu.
Les parents adeptes de l'éducation positive vivent tant que ça au paradis, étant donné que, voilà, vous l'avez bien souligné, il y a quand même une forme de négation Oui, de leurs besoins, ils sont un peu, oui, ils sont oubliés d'eux-mêmes d'une certaine façon, quoi. Moi, c'est un peu ce type de paradoxe qui m'interpelle beaucoup dans cette proposition, c'est que finalement, on va revendiquer la bienveillance pour l'enfant, on va expliquer à quel point c'est essentiel, on va revendiquer le respect des besoins de l'enfant, de ses rythmes, en montrant à quel point, encore une fois, c'est essentiel, mais pour le parent, c'est pas valable. Et ça, moi, c'est pour moi, c'est un vrai paradoxe. C'est pas le seul, hein, il y en a plein, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas tenir, en fait, d'une certaine façon. Et même, ça va plus loin, parce que on va expliquer que les punitions répressives, violentes, c'est mauvais pour l'enfant. Mais finalement, on va éduquer les parents avec de la culpabilité, en faisant appel au levier de la peur, en les humiliant d'une certaine façon. Donc, en fait, en utilisant beaucoup des leviers qu'on a pourtant prouvé la nocivité éducative du point de vue de l'enfant. Donc, il y a en permanence cette espèce de double discours où on va revendiquer l'avènement d'une société moins violente, plus tolérante, plus respectueuse, mais bon, pas pour les parents, en tout cas pas tout de suite. Et peut-être le dernier exemple là-dessus, les parents adeptes de l'éducation positive, encore une fois, disent « mais moi, je vais faire attention à ce que je montre à mon enfant, je suis aussi un exemple, donc c'est pour ça que je ne pratique pas des fameuses violences éducatives sur lui, parce que je ne veux pas que plus tard, il le fasse avec ses enfants. Mais par contre, ça ne pose aucun problème de lui montrer le modèle d'une parentalité ultra sacrificielle qui ne se laisse même pas le temps de respirer, même pas le temps de vivre, même pas le temps d'avoir des amis, un conjoint, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Encore une fois, c'est un paradoxe qui m'interroge.
Mais je trouve que vraiment c'est intéressant et tellement fréquent dans les situations de la vie quotidienne, cette notion d'humiliation du parent. Parce que dans la rue, enfin, je pense qu'on a toutes vu ça, voire même vécu ça en tant que parent, un adulte qui vient nous réprimander, qui vient réprimander le parent sur sa manière de réagir avec l'enfant en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement violent ». Et en même temps, c'est évidemment très humiliant et très disqualifiant pour le parent, cette position-là vis-à-vis de son propre enfant. Donc je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un paradoxe énorme. Hein. C'est pas d'humiliation, mais pas pour l'enfant. Mais bon, je trouve qu'on voit aussi bien dans la vie quotidienne, au risque de faire de la psychologie de comptoir, mais moi, c'est vrai que ça m'interroge dans le métro, quand je vois aujourd'hui, en général, ce qui est proposé, c'est de laisser la place aux enfants et pas aux personnes âgées. Et dans le métro. Enfin, c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne.
Ça, pour moi, ça répond aussi à l'impératif que les adultes ont beaucoup plus de difficultés à supporter qu'un enfant soit un enfant dans l'espace public, et que donc, ce qu'on veut, c'est surtout qu'il se tienne tranquille. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas... Enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on lui donne un téléphone pour qu'il se tienne tranquille, pour qu'on lui donne la place pour qu'il se tienne tranquille? Parce qu'en fait, le partage de l'espace public avec les enfants, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils aient droit de citer.
Oui, ça, c'est du coup encore un autre débat.
Oui, c'était notre aspect.
Dans ce qui peut faire aussi obstacle pour les parents à l'éducation, en tout cas, fait de mettre en place, de pratiquer l'éducation positive, c'est cette question de la reproduction du modèle éducatif. Alors, vous en parliez un petit peu, Christelle, autour de ces différences, autorité, autoritarisme. J'ai vécu de l'autoritarisme. Je veux plutôt être dans quelque chose, de ne pas reproduire ça, mais être dans l'autorité. Donc, comment les choses s'aménagent par rapport à ce qui se réactive de sa propre histoire, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a envie de garder, et puis de ce qu'on n'a pas envie de garder?
Donc ça pose la question en fait, des choix parentaux, et les choix que l'on fait, ils sont en lien, comme vous le disiez Béatrice, avec la société actuelle et aussi avec notre histoire. Donc est-ce que je fais le choix de faire comme mes parents ont fait, hein, dans quelque chose comme ça, de l'ordre d'une loyauté très forte? Si je ne fais pas comme mes parents, c'est comme si j'attaquais mes parents en leur disant qu'ils n'avaient pas bien fait, hein. Mais est-ce un vrai choix, alors? Et il y a aussi des parents qui vont rester très loyaux d'une certaine manière, mais dans une position inverse, en disant « je vais faire exactement l'inverse ». Mais en même temps, ce n'est pas non plus un choix, puisque hein, le plus et le moins, on arrive à la même chose. Donc ça pose vraiment la question de la différenciation. Est-ce que je vais faire un choix singulier par rapport à qui je suis, à qui sont chacun de mes enfants? Parce que je crois qu'on ne peut pas faire la même chose avec chacun des enfants non plus. On a des grandes valeurs, hein, bien sûr, des grands repères dans l'éducation. Mais chaque enfant a sa singularité et on ne peut pas faire du copier-coller pour chacun des enfants. est-ce que je suis suffisamment différenciée en fait de mes parents pour pouvoir faire des choix qui me sont propres en tant qu'adulte ?
Alors, les psys, justement, parlent souvent de cette différenciation, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris par les parents. Alors, Christelle, qu'est-ce que ça veut dire être différenciée de sa famille d'origine ?
Alors, c'est être à la fois dans l'attachement et la singularité. C'est s'individuer. C'est pouvoir être dans l'affirmation de soi, de qui je suis, sans que je sois dans la crainte de la rupture. Et c'est aussi donc pouvoir s'affranchir des modèles parentaux, pouvoir dire, bah voilà, ça, je le garde, ça me convient par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je souhaite dans ma vie, je le garde. Et puis ça, bah non, je vais le laisser de côté, ça ne me convient pas. Et ça ne va pas remettre en cause les relations aux parents. Donc c'est vraiment pouvoir faire ses choix, quoi, de ce qu'on garde, de ce qu'on reconnaît en soi comme appartenant aussi à l'autre, et reconnaître en soi ce qui est singulier. Donc vraiment, c'est pas le rejet, parce que parfois, quand tu parles de différenciation, j'ai des patients qui ont peur, qui disent « Ouh là là là, mais vous voulez alors que je romps avec mes parents ?» J'ai dit « Non, il s'agit absolument pas de ça, c'est pas du tout le projet, parce que rompre, c'est pas avoir fait ce travail de différenciation, en fait, et d'affranchissement. C'est se séparer, en fait, se différencier. Et donc se séparer, c'est pouvoir savoir qu'on peut s'éloigner, revenir, et puis le lien se transforme. Donc c'est être en lien, en étant soi, différent de l'autre. Moi, je donne souvent la métaphore de la valise. Je dis, ben voilà, quand on grandit dans le milieu familial, on a une valise qui va être remplie par nos différentes expériences, notamment dans le milieu familial. Et évidemment, cette valise va être remplie d'autres expériences ailleurs, à l'école, chez les grands-parents, etc. Et puis, quand on devient un adulte, eh bien, on fait le tri. Donc, il y a des choses qu'on va enlever de cette valise qui ne nous conviennent plus, d'autres qu'on va garder. Puis, on va faire référence à des nouveaux modèles, à s'affilier à autre chose. Puis, il y a la question aussi du partenaire. Hein, quand on s'inscrit dans un couple, quelle valise commune on va pouvoir créer ? Alors, pour créer une valise commune, eh bien, il faut faire du tri. Et c'est d'ailleurs très souvent ce qui fait conflit dans les couples. Hein. C'est comme ça, c'est cette guerre un peu des valises, quoi. Qui va garder la sienne ou alors, moi, je mets tout à la poubelle de la mienne et puis je m'affilie à la tienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un établissement aussi de compromis, une création commune, en fait, de cette valise. Voilà pour ce qui concerne la différenciation.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est important de bien garder cette idée que vous avez évoquée, que c'est un processus. Parce qu'en parentalité, j'ai le sentiment, en tout cas moi je reçois beaucoup de témoignages un peu dans ce sens-là, où il faudrait être déjà tout parfait, tout fini, avant la naissance de son enfant. Donc on se prépare, on lit des livres, on suit des stages, etc. Parce que bon, ça risquerait d'être un problème, sinon, si on n'est pas déjà, on n'a déjà pas tout réfléchi à tout. Et bon, c'est quand même pas ce qu'on constate au quotidien. On constate plutôt une construction de la parentalité en chemin, où on va remettre en question certaines choses, etc. Et cette question de différenciation que vous évoquez, j'ai le sentiment que certains parents le prennent encore une fois comme un préalable, comme si voilà, on passe à l'âge adulte, allez, c'est bon, ça fait partie, sinon je ne suis pas vraiment un adulte. Et en réalité, alors encore une fois, hein, vous allez peut-être me contredire en tant que psy, mais on est dans une forme de processus où il y a des choses qu'on n'avait pas imaginé avoir embarquées avec nous de nos parents, puis finalement un jour on dit, j'avais ça, comme vous dites, dans ma valise, et je n'avais même pas conscience, et voilà, et je remets encore une fois la question sur le tapis, de même que on apprend aussi à être parent avec ses enfants. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas être le même parce que les enfants sont différents, mais on ne peut pas être le même parce que nous-mêmes, on n'est plus la même personne. Et moi, je passe beaucoup de temps aussi à rassurer les parents là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas se cristalliser en disant « ça y est, moi, je suis ce parent-là et je le serai ad vitam aeternam pour tous mes enfants, à tous les âges, à tous leurs âges ». Donc voilà, moi, j'ai l'impression qu'on manque de voix pour populariser cette idée que la parentalité, c'est un chemin et qu'on s'engage dans une forme de pratique réflexive où ce qu'on demande aux parents, ce n'est pas d'être parfait, justement, puisque ça n'existe n'existe pas, mais peut-être de réfléchir, d'être créatif, d'être inventif, de savoir voir quand ça commence un petit peu à être compliqué, d'imaginer des nouvelles stratégies et vraiment d'avancer comme ça par itération sans se dire que on vise une perfection. On peut avoir un idéal, ça je trouve que c'est pas mal, mais voilà, un idéal c'est une étoile qui nous aide à nous orienter. Et on ne l'atteindra pas. Et c'est très bien.
Oui, c'est vraiment important ce que vous dites du processus. Moi, c'est toujours ce que je dis. C'est que cette question de la différenciation, elle se rejoue à plein d'étapes, en fait, de la vie. C'est un processus, je ne sais même pas si un jour on peut dire qu'il est terminé, achevé. Je ne crois pas. Il se rejoue au moment où on se met en couple. Il se rejoue à l'arrivée d'un premier enfant, à l'arrivée d'un deuxième, au moment d'une séparation, etc., etc.
Et en fonction des âges des enfants, parce que voilà, un petit, un enfant de 6 ans, un adolescent ne va pas aussi susciter, activer les mêmes choses aussi de son histoire. Donc voilà, des questions aussi émergent au fur et à mesure des années. Puis quand on devient aussi grand-parent, voilà, ça réactive aussi des choses. Donc en effet, ce processus, il accompagne tout au long de la vie.
Vous posiez la question des écueils par rapport à l'éducation positive. Moi, il y en a un quand même que je vois beaucoup, beaucoup dans ma pratique, et notamment donc en thérapie familiale. C'est vraiment la confusion entre limites éducatives et quête d'amour. Comme si, quand je pose des limites éducatives, je n'aimais plus mon enfant, je prenais le risque qu'il ne se sente pas aimé, et je prenais le risque qu'il ne m'aime plus ou plus suffisamment en retour. Et il y a vraiment, je trouve, une dictature comme ça de l'amour qui viendrait s'opposer, en fait, aux limites éducatives, alors que, bien évidemment, que les deux doivent coexister, peuvent coexister. Et je veux dire, l'amour entre un parent et son enfant, c'est aussi pouvoir dire non, quoi, en fait. L'amour inconditionnel, c'est accepter que mon enfant ne soit pas content, en fait, soit pas content, puisse me dire « Maman, t'es méchante, papa, t'es méchant, t'es plus mon papa », et de pouvoir le supporter.
Moi, j'ai l'impression qu'un des apports peut-être aussi de ces perspectives, alors avec tous les points, les écueils, les points de vigilance et les dérives possibles, c'est aussi d'avoir proposé, alors je vais peut-être me mettre du côté des supporters pour une fois, d'avoir proposé de reformuler le rôle du parent qu'on a beaucoup structuré autour du non et de l'interdit, en le reformulant autour du oui et de la possibilité. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça fait écho aux théories de l'attachement qui nous disent que voilà, le rôle du parent, c'est de constituer ce cadre de sécurité, donc évidemment de dire non quand il faut, mais aussi de dire d'une certaine façon oui, je t'encourage, vas-y, explore. Et voilà, et je trouve parfois intéressant aussi, même si je suis d'accord, c'est pas forcément généralisé dans ces nouvelles propositions éducatives, de s'interroger sur le sens des règles qu'on pose. Est-ce que je pose cette règle parce que voilà, il y a un danger, parce que est-ce que je pose cette règle parce que j'ai peur moi-même du regard des autres? Et là déjà, on peut avancer. Est-ce que je suis, quel type d'interdit en fait je suis en train de promouvoir, et de s'autoriser aussi à dire oui, mais un oui parental, un oui qui est un geste éducatif et qui n'est pas simplement, qui n'est pas de la permissivité, qui est réellement une possibilité, une autorisation donnée à son enfant d'explorer le monde, de grandir et aussi de nous quitter.
Bah, c'est-à-dire que le oui a du sens et a une vraie valeur s'il y a du non.
Tout à fait.
Dans tout ce que vous venez de nous partager, Béatrice et Christelle, hein, on voit bien, en effet, que l'éducation parfaite, elle n'existe pas. Et j'aime beaucoup cette idée du processus, du chemin. Voilà, il y a plein d'images qui viennent. Cette question aussi du masque à oxygène, quand il y a une dépressurisation dans l'avion, on le met d'abord sur soi aussi, avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, s'autoriser en tout cas en tant que parent à prendre soin de soi pour prendre soin de ses enfants. Et en tout cas, la question aussi, vous avez beaucoup évoqué de l'altérité. Voilà, on peut s'inspirer, se nourrir de l'éducation positive, mais aussi choisir de faire certaines choses et de ne pas en faire d'autres, et c'est OK. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Béatrice, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander? Des lectures, d'autres podcasts ou autres, des vidéos?
Oui, moi je profite de l'occasion pour signaler la sortie prochaine d'un grand dossier du magazine Sciences Humaines consacré à l'éducation positive, là, donc, qui devrait sortir dans les jours suivants, mise en kiosque à partir du 10 juin.
Merci Béatrice. Christelle, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander?
Alors, par rapport à tout ce qu'on a abordé, j'ai vraiment une première recommandation, c'est « L'amour ne suffit pas » de Claude Almos. Un autre livre, « Une mère suffisamment bonne » donc de Winnicott. Et puis, un livre qui se veut alors très piquant et en même temps drôle et très déculpabilisant pour les parents, « Comment survivre à ses enfants » de Patrick Bensoussan. Et puis enfin, le podcast donc, de Caroline Goldman, l'épisode sur la critique de l'éducation positive. Donc, j'ai quand même juste envie de dire que ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais plutôt garder un esprit critique et une ouverture. Mmh.
Et moi, je recommanderais le podcast Métachoc, dans lequel, Béatrice, vous êtes intervenue sur l'éducation bienveillante, positive, et où, justement, voilà, vous reprenez certaines choses qu'on a déjà pu évoquer. Et puis, évidemment, votre livre, L'éducation vraiment positive, ce qu'il faut savoir pour que les enfants soient heureux, et les parents aussi. Et puis, le livre de Marie Chétrit, Éducation positive, une question d'équilibre. Un très grand merci, Béatrice Caméraire, d'être venue partager avec nous toutes vos réflexions. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique spécialisée dans l'éducation. Merci beaucoup, Christelle Gollner, également pour tous vos éclairages cliniques. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple et que vous exercez à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.